Durant ce mois béni de Ramadan, au cœur de l'islam vous propose de commencer vos journées avec un brin de spiritualité. Nous serons en ligne en votre compagnie tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, à partir de 6h du matin pour la rediffusion du meilleur de ce qui se trouve dans notre grenier. Quant au vendredi, vous découvrirez de nouvelles émissions avec de nouvelles thématiques proches de l'actualité. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours sur Radio Alger chaîne 3 de 6h à 7h du matin et sur x.com, au cœur de l'islam, chaîne 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, marhaba bikoum sur les ondes positives de Radio Alger chaîne 3. Le décor et l'ambiance sont désormais installés. Sentez-vous cette odeur bienfaisante? Ressentez-vous ce besoin de plénitude? Et enfin, serez-vous prêt pour accueillir cette forte énergie qui vous aidera à recharger vos batteries en matière de spiritualité? Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors Kamel Shekat, nous poursuivons aujourd'hui notre thématique autour du jeûne du mois de Ramadan. Après une introduction la semaine dernière au sujet de l'occurrence décalée du mois de Ramadan et la fameuse polémique au sujet de l'observation à l'œil nu de la lune de Ramadan, donc pour le début et pour la fin, aussi pour ceux qui choisissent le calcul astronomique. Alors dans cette émission, il sera plutôt question d'aider nos amis auditeurs à aller vers un jeûne juridiquement correct, comment réussir ce cheminement individuel vers le divin pour en tirer les meilleures faveurs. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Y a-t-il des moyens de récupération ou d'expiation des fautes commises lors du jeûne? Mais pour commencer, Kamel Shekat, peut-être qu'il faudra revenir sur le sens spirituel de cet acte obligatoire auquel on doit aller volontairement.
Absolument. Alors le verset est un peu plus clair. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc peut-être atteindriez-vous la piété. Par ce verset, nous avons déjà la vocation initiale du jeûne. Mais au-delà de cette abstention physique de se nourrir, de s'alimenter, de s'abreuver, il y a aussi le fait que l'on doive s'abstenir de tout ce qui est généralement licite tout au long de l'année. C'est-à-dire que tout excès vers ce qui est permis n'est pas tout à fait compatible avec le jeûne. Même si ça n'est pas interdit et même si ça n'annule pas le jeûne. Par exemple, le fait de trop manger ne peut en aucun cas être compatible avec l'esprit du jeûne, mais ça n'annule pas votre jeûne. Il y a par contre d'autres mauvaises habitudes qui peuvent annuler justement ce jeûne. Un hadith de Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayra nous dit que le messager de Dieu alayhi salatu wasalam, a dit « Quand l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et d'élever la voix, si quelqu'un l'injurie ou le provoque au combat, qu'ils disent « Je suis en état de jeûne ». Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari d'après Abu Hurayrata, le messager de Dieu a dit « Celui qui ne s'abstient pas de mentir ou d'agir en pur mensonge, Dieu n'a que faire de son renoncement à manger ou à boire ». Ceci sans oublier que le messager de Dieu, en plus de s'interdire tout cela, était dans un engagement cultuel qui était au double de ce qu'il avait tout au long de l'année. Nous avons un hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhum rapporté par le Bukhari et Muslim qui nous dit « Le messager de Dieu alayhi salatu salam était l'homme le plus généreux. Mais au mois de Ramadan, quand il rencontrait Gabriel, il était encore plus généreux. Or Gabriel le rencontrait à chaque nuit de Ramadan où ils étudiaient ensemble le Coran. Quand Gabriel rencontrait le messager de Dieu, ce dernier était certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. » Donc il y a d'un côté le fait de renoncer à ce qui est mauvais, parce que ce qui est mauvais peut annuler votre jeûne, mais il y a aussi le fait d'aller encore plus vers Dieu pour essayer de faire le plus de bonnes œuvres pendant cette période du jeûne.
Kamel Shekat, c'est bien beau de dire aller vers Dieu, mais le chemin n'est pas des plus simples, certainement.
Absolument. Je m'arrange pendant le mois de Ramadan pour sortir très très peu, pour me déplacer très très peu. si ce n'est pour un travail ou pour quelque chose.
Mais c'est pas vraiment évident pour tous. Nous devons tous sortir et travailler.
Le sujet
affronter la vie de tous les jours.
Oui, généralement, vous savez, mon expérience, hein, aussi minime soit-elle, me dit qu'il faut éviter les rues d'Alger à partir de 16 heures.
Mm-hmm.
C'est là que se réveillent généralement les couches tard. Et c'est à ce moment-là que commencent les problèmes, essentiellement. Faire les courses d'appoint, moi je les fais très 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 tôt le matin pour éviter le maximum, au maximum de rencontrer ou de tomber, entre guillemets, sur des gens qu'il ne serait pas favorable de rencontrer, tout simplement. Il faut éviter de porter préjudice à son propre jeûne. Et à partir de là, vous allez vous acclimater à votre milieu, tout simplement. Quand je dis cela, ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous essayons autant que faire se peut de préserver notre jeûne et de nous préserver pendant cette période où il est très très difficile pour ceux qui se laissent aller à ce phénomène de consommation de jeûner convenablement.
Je voudrais, Kamel Chakat, qu'on arrive à matérialiser cette expression ou cette phrase « aller vers Dieu ». Quel est l'esprit avec lequel on devrait d'abord accueillir Ramadan ?
Il faudrait déjà ne pas penser uniquement à remplir son réfrigérateur ou à remplir la table à chaque adhan de l'maghrib.
La nouvelle vaisselle et tout ce qui s'ensuit.
Tout ça, oui, refaire les peintures de la cuisine et j'en passe. Peut-être qu'avant ça avait un sens, dans la mesure où on accueillait un invité. Maintenant, ça n'a plus de sens, c'est du paraître. Et là, ça dénature tout. Et à partir
Qu'est-ce
de là.
Qu'est-ce que ça dit de nous, Kamel Chakat?
Ça dit que nous sommes vraiment, nous sommes terre à terre dans notre manière d'aborder le culte. Nous sommes superficiels. Je ne dis pas ça pour les gens.
Ça nous concerne aussi. Hein.
Malheureusement, je me retrouve dans cette logique. Par moments, vous savez, ce qui nous tue le plus, c'est, par exemple, le fait, par exemple, d'essayer de faire en sorte que les enfants ne se sentent pas lésés ou ne se sentent pas démunis. Parce que chez un tel, sur la table, il y avait tel, tel et tel mets, et nous n'avons rien de tout cela, non. Il va falloir que nous commencions à faire un travail avec nos enfants pour leur expliquer que ce n'est pas un mois de consommation, à faire un travail sur nous-mêmes pour ne pas être dans ce conformisme. L'Eid, Ramadan, tout va trouver des points communs justement dans cette manière de vouloir être, entre guillemets, aux normes. Un tel a acheté un mouton pour Eid al-Kbir, moi aussi je dois acheter un mouton, et la majorité vous diront « Wallah yani chiritou l'drari ». Mais non, normalement, chirih l'arbi.
Donc on revient, Kamel Chakat, à ce sens intérieur des actes cultuels, que
Absolument.
Ce soit pour le jeûne ou autre chose.
Absolument.
Il faut d'abord comprendre ce point pour pouvoir aller de l'avant.
Déjà, bien se raisonner, bien comprendre que l'acte, je le fais pour plaire à Dieu. Pas pour plaire à la société ou pour plaire à un tel ou un tel. Ça, c'est la première des choses. Expliquer ensuite aux enfants que voilà, si vous entendez dire que on doit mettre sur la table tel ou tel plat, ça n'est pas une obligation. Il y a tout un travail à faire, mais voilà, maintenant vous allumez vos télévisions pendant le mois de Ramadan.
Ah, et la publicité.
C'est uniquement sur la bouffe, entre guillemets, l'alimentaire. Vous avez les émissions de cuisine qui sont multipliées par deux ou par trois. Et puis, je suis désolé, c'est tout concourt vers ce phénomène de consommation. Et ça ne peut pas faire l'affaire. Normalement, les médias. Bon, maintenant, s'il y a une chaîne qui est spécialisée dans la cuisine, on ne va pas leur dire bah, ne faites pas ça pendant Ramadan. C'est clair.
Mais il faut de la modération dans tout.
Les chaînes généralistes devraient travailler à favoriser ou à donner naissance à cet élan civilisationnel que pourrait être le culte. Parce que là, nous sommes dans l'opium des peuples. Il est clair que le cerveau et le ventre, quand vous faites du remplissage, soit vous remplissez votre panse, soit vous remplissez votre cervelle. Vous ne pouvez pas remplir les deux en même temps. Ça ne marche pas.
Je vous parlais la semaine dernière, Kamel Chakat, de ce mois comme étant un mois d'état vide. Vous parliez de plénitude.
Oui,
justement, cette plénitude, il faudra l'expliquer.
Oui. Il est vrai qu'il y a quelque peu de cette notion de se vider, surtout mentalement. Parce que si je me fie aux grands savants de cette nation, quelqu'un comme l'imam Ahmed Mohambel vous dira « Kuna idha hadara Ramadan, ghlaqna kutub al-fiqh, wa fatahna al-Qur'an » ou bien le mushaf. Ça veut dire que nous fermions tous les livres de droit canon pour ouvrir le Coran. Quand vous ouvrez le Coran, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez le Coran. Alors, Là encore, il faut comprendre une chose. Quand vous lisez le Coran, bien que vous êtes dans l'action, vous êtes à l'écoute de Dieu. Comme disait, je pense, Ibn Mas'ud, quiconque veut écouter Dieu, qu'il lise le Coran, et quiconque veut parler à Dieu, qu'il se mette en prière. Dans la prière, vous êtes beaucoup plus dans l'action que quand vous lisez. Mais quand vous lisez, vous produisez un effort. Cet effort, et le paradoxe, c'est que cet effort, c'est vous qui prononcez, mais vous êtes dans l'écoute. Déjà, la lecture en elle-même est une forme de culte. C'est-à-dire que le fait de prononcer un verset fait de vous une personne qui est dans une activité cultuelle. Et cette manière de se détacher de tout pour ne donner de l'importance qu'à la lecture du Coran, c'est en quelque sorte une tentative de mise à jour. Vous laissez de côté ce que vous avez l'habitude de faire pour vous adonner à une activité, somme toute faite, qui est très très simple, mais qui va vous régénérer quelque peu. La chose est très très simple. Et là, malheureusement, si nous restons sur le plan collectif, sur le plan social, dans cette logique de consommation effrénée, nous sommes dans ce fameux hadith qui n'a rien à voir avec le jeûne, qui parlait de cet homme qui, avant nous, « Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan », celui qui a tué 99 personnes. Il veut se repentir, il va voir un moine qui lui dira qu'il n'y a pas lieu, qu'il n'y a pas du tout moyen qu'il se repente, et il va le tuer, complétant ainsi à 100 le nombre de ses meurtres ou de ses victimes. Et puis quand il ira vers celui qui a été cité ou qualifié par le messager de Dieu alayhi salatu salam comme savant, fadulla ala rajulin alim. Pourquoi alim? Parce que non seulement il a des connaissances théologiques, mais il va donner à la personne le meilleur moyen de se repentir. Qala idhab ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan. Va à telle terre, à telle contrée, il y a là des gens. Il n'a pas dit des gens vertueux. Unas, tout simplement, qui, sans effort colossal, sans faire dans l'ostentatoire, c'est des gens qui adorent Dieu de manière très très simple. Qala fa'budillaha ma'akum wa la ta'ud ila ardika fa innaha ardu su. Ça veut dire que le milieu,
assainir son environnement,
il joue un rôle sur il a un impact sur notre comportement. Et c'est pour cela que peut-être que l'un des meilleurs moyens de bien jeûner le mois de Ramadan, c'est de se dissocier ou de s'éloigner autant que faire se peut des gens, des grands rassemblements tels que les marchés et surtout des lieux de consommation. Nous, c'est une chose que beaucoup d'entre nous ne font pas. C'est ça le problème.
Un très bon moyen pour perdre du temps en attendant l'arrivée de Waqt al-Iftar. Kamal Chakat, ce que vous nous dites là donc, nous pousse à comprendre que Ramadan est une façon ou un moyen de nous exercer à réaliser notre meilleure version, la meilleure version de nous-mêmes.
Absolument.
Et nous savons que Ramadan Kamal Chakat est un marqueur très important dans la vie du musulman. Est-ce qu'il faudra commencer par le repentir? C'est important de faire sa tawba avant d'entamer ce mois.
Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans deux hadiths différents, dans l'un, il dit qu'il se repent à Dieu et retourne vers lui plus de 70 fois par jour. « Ama Wallahi inni la atubu ila Allahi wa arji'u bien wa a'udu ilayhi aktara min 70 maratin fil yom » dans un autre, plus de 100 fois par jour. Il ne s'agit pas de marquer les différentes haltes ou stations de l'année par des repentirs. Le repentir est un exercice quotidien qui se fait par de petites paroles, etc., mais qui se fait aussi dans l'action, dans des résolutions que l'on pourrait prendre, par exemple, comme celle de ne pas, par exemple, faire telle ou telle chose, d'éviter telle ou telle chose. Nous venons de vivre près de 3 années de pandémie. Nous avons tout vu pendant cette pandémie. Cette pandémie nous a recadré, elle nous a montré ce qui est le plus essentiel, le plus important dans notre vie. Maintenant, dans cette ambiance déjà, dans cette prise de conscience, quand un mois de Ramadan vient, normalement nous sommes plus enclins à la sobriété que dans d'autres moments et dans d'autres lieux. Donc essayons tout simplement de prendre tout cela en ligne de compte.
Donner du sens à ce mois.
Absolument.
Alors Kamal Chakat, il y a un certain nombre de règles pour que le jeûne soit correct juridiquement.
Absolument. Alors écoutez, il y a une définition que vous allez retrouver chez l'imam Nawawi al-Hafidh ibn Hajar, donc quand on parle d'Imam Nawawi, c'est dans son interprétation de Muslim. Et quand on parle d'Ibn Hajar al-Asqalani, on parle de l'interprétation du précis al-Bukhari, radiyallahu anhu al-jami' wa rahimallahu al-jami', qui vous dit « Le jeûne est une abstention spécifique, à un moment spécifique, obéissant à des règles spécifiques. » L'abstention spécifique, c'est quoi ? Ça n'est pas uniquement le fait de s'abstenir de manger et de boire, et puis de faire les 400 coups, de faire n'importe quoi. On s'abstient réellement de manger et de boire, mais on s'abstient de beaucoup, beaucoup de choses aussi, qui vont accompagner justement un acte qui est purement physique, et s'associer à lui par l'esprit et par le cœur, tout simplement. Le moment, c'est un moment aussi spécifique. Généralement, l'abstention va de l'aube jusqu'au crépuscule. Et là, revenant à un point qui a fait polémique il y a quelques années de cela, et son auteur se présentait aux gens comme s'il venait d'inventer la roue. Alors, au tout début de l'islam, les gens, pour peu que le jeûne les éprouvait, avaient le droit de ne pas jeûner et de compenser ce jeûne par une fidya, c'est-à-dire par la nourriture d'un nécessiteux. Ensuite, ça a changé. Quiconque atteignait le mois de Ramadan devait jeûner, à moins que la personne en question ne soit en voyage ou qu'elle ne soit atteinte d'une maladie qui peut dégénérer avec le jeûne. On parle aussi des maladies chroniques. Pour ce qui est du temps aussi imparti à cette abstention, au tout début du jeûne, les gens jeûnaient donc le soir à partir du moment où commençait le sommeil jusqu'au lendemain au crépuscule. Et il est arrivé que certaines personnes très très fatiguées par le travail rentrent chez elles après le crépuscule. Ces personnes, comme beaucoup de cas qui nous sont cités, mais il y a celui d'un sahabi qui est entré le soir chez lui. Il n'a même pas eu le temps de manger quoi que ce soit. Il était tellement fatigué, il n'a pris qu'un petit peu d'eau et s'était endormi. Et donc, dès lors où on entrait dans une phase de sommeil, c'était un nouveau cycle d'abstention qui commençait au quotidien. Et ensuite, la chose a été allégée par Dieu subhanahu wa ta'ala, où il dit « وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » Donc, on devait rompre le jeûne au crépuscule et rester dans cet état jusqu'à l'aube, où commençait un nouveau cycle d'abstention quotidien. Maintenant, pour les règles spécifiques, il s'agit de s'abstenir de manger et de boire pendant cette période du jour. Mais ici, il faut aussi s'abstenir de médire, de mentir, d'injurier les gens, etc.
Parce ça annule le jeûne, Kamal Shekat ?
Ça, écoutez, il y a des actes qui annulent ce que nous voyons malheureusement dans les rues pendant les bagarres légendaires du mois de Ramadan chez les Algériens. Une kufriya, comme on dit avec le langage courant, ça n'annule pas uniquement la journée.
Traduisez comme un chikat, kufriya.
Un blasphème. Ça annule carrément l'appartenance à l'islam. Donc quiconque fait ça devrait se repentir, refaire ses grandes ablutions et re-rentrer dans l'islam. Yaoudi Trulfuddin, et comment ? Mais les gens le font, mais alors avec une légèreté incroyable, malheureusement. Et puis, en parlant de cette abstention de manger, si vous vous fiez à la culture qui avait cours il y a, on va dire, une quinzaine, une vingtaine d'années, pour certaines personnes qui voulaient observer scrupuleusement cette règle qui consiste à ne rien laisser passer à arriver à l'estomac, même un peu de poussière pouvait emmener quelqu'un à poser une question à un juriste, un mufti. Voilà, j'ai avalé un peu de poussière, est-ce que c'est un meijouz ou meijouz? Rufi'an ummati al-khata ou an-nisyan ou mastukriwa alayhi. Il y a un hadith du messager de Dieu qui dit « Dieu a absous ma communauté de l'oubli, de la contrainte, rufi'an ummati, et de l'erreur. » Al-khata ou an-nisyan ou mastukriwa alayhi. Quand on parle de ce qui peut annuler le jeûne en termes de nourriture ou de ce qui pourrait parvenir à l'estomac, il y a une tendance qui est, on va dire, littérale. Rien ne doit arriver à l'estomac. Mais il y a une tendance qui est celle des écoles actuellement et qui a été celle des Malikites, d'Ibn Taymiyyah et j'en passe, qui consiste à ne pas laisser arriver à l'estomac par la voie normale, c'est-à-dire par l'œsophage, tout ce qui a un caractère nourricier, c'est-à-dire des produits qui peuvent nourrir la personne ou contribuer à son alimentation.
Donc un vaccin, un collyre, une injection.
Vaccin, le collyre, tout ça a été cité par les anciens savants. Le collyre, alors ce qui peut parvenir par les yeux ou par le nez, on appelle cela sa'ut, surtout par le collyre, par les yeux. La base en tout cela, c'est un hadith. Alors il y a deux hadiths qui parlent de la saignée,
le
hijama. Dans un hadith, il est dit, le messager de Dieu, alayhi salam, est passé par deux personnes. L'une faisait une saignée à l'autre. Qala aftar al-hajimu al-mahjum. Les deux ont rompu leur jeûne. Et puis, nous savons dans un hadith que le messager de Dieu, alayhi salam, ihtajama wa huwa sa'im, ihtajama wa huwa muhrim. Donc, même pendant la période de sacralisation. Il y a une contradiction. Anas ibn Malik va vous dire, au tout début, c'était interdit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de son propre chef, il parle sous inspiration divine. C'est ce qui fait de lui un législateur qui légifère selon une volonté divine. Et à partir de là, les savants ont penché pour les avis les plus consensuels sont ceux qui disent que tout ce qui pourrait parvenir à l'estomac de manière involontaire, tel que vous entrez chez un marchand d'épices pendant la période d'abstinence, ce que vous ressentez, ce sont des particules d'épices qui sont entrées par vos narines.
La
qui
cannelle, le poivre,
oui.
Le curcuma.
Donc c'est quelque chose qui arrive jusqu'à votre estomac, surtout pour la personne qui travaille dans ces épices.
Donc fatar à coup sûr.
Non, mais c'est fatar, parce que le produit en lui-même ne s'utilise pas comme ça dans une nourriture directe. Et donc à partir de là, beaucoup de savants ont dit que ne pourrait annuler le jeûne que ce qui pourrait parvenir à l'estomac par la voie normale, c'est-à-dire par l'œsophage, dans une intention de se nourrir.
Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam sur les ondes de Radio Al-Jishin 3. Aujourd'hui, c'est le deuxième numéro consacré donc au jeûne du mois de Ramadan. Et dans la première partie, Kamal Shekat, nous parlions donc du sens intérieur que l'on doit donner au jeûne du mois de Ramadan. Comment réussir cette marche vers le divin, comment réussir son épanouissement durant le mois de Ramadan. Alors, dans un hadith, oui. Il est dit خمسون يفطرنا الصائم وينقذنا الوضوء الكذب والنميمة والغيبة والنظر بشهوة واليمين الكاذبة.
Oui, bien sûr, le parjure, donc le fait de regarder une femme
avec envie, avec désir,
il y a aussi la médisance. Yamil Kadiba, c'est le parjure. Cité.
El Kadib, le mensonge,
le colportage.
Et
la médisance. Ce sont des choses qui annulent. Mais attention, là, il faut aussi comprendre un autre système. Avant de passer à ça, expliquons quand même, parce que c'est une question qui revient très très souvent, les gens vous disent, est-ce que le fait de s'administrer une injection, est-ce que l'amr mufter ou pas mufter? L'injection en elle-même, une injection, au tout début de l'islam, c'était quoi? C'était pas le piston avec l'injection, l'aiguille. C'était un tube dans lequel on versait le médicament ou la potion à administrer au malade, qu'on allait souffler vers le creux, vers le ventre de l'estomac du malade, donc vers son sein, son intérieur, par voie rectale. Donc il y a un produit qui arrivait à l'estomac ou aux intestins. Et c'est pour cela que ça posait problème pour certains juristes. Maintenant, nous savons que l'intraveineuse, l'intramusculaire, ou l'intradermique, n'ont pas ce caractère nourricier qui pourrait annuler le jeûne. Il n'y a que la perfusion au sérum glucosé ou salé ou je ne sais quoi, qui a pour vocation d'alimenter une personne malade, qui pourrait justement annuler le jeûne. Maintenant, pour ce que vous avez cité, nous avons dit qu'il y avait des règles spécifiques au jeûne. Ces règles peuvent concerner l'alimentation, directe ou indirecte, mais elles peuvent concerner le comportement. Maintenant, ce qui va annuler le jeûne, là, la médisance, le mensonge, etc. Quand vous avez une conscience, vous allez peut-être rejeûner le jour en question. Vous vous dites, tiens, le jour, tel jour, pendant le mois de Ramadan, j'ai menti. Ou bien j'ai fait un parjure. je dois refaire le jeûne. Vous pouvez le refaire. Rien ne vous y empêche. Mais vous n'êtes pas sous l'effet d'une expiation, kfara. Quand vous mangez de manière délibérée, vous vous exposez à une kfara qui consiste, l'expiation consiste à affranchir un esclave au moment où il y avait l'esclavage, ou bien jeûner 60 jours consécutifs, ou bien nourrir 60 nécessiteux. Et là encore, il y a divergence au sein de la communauté théologienne. Il y a un hadith qui parle du jeûne du mois de Ramadan et qui dit que si ce jeûne venait à être rompu délibérément, rien ne pourrait le récupérer. Rien, absolument rien. Pourquoi ? Parce que ce jeûne du mois de Ramadan que vous allez le jeûner pendant le mois de Ramadan et le mois de Ramadan est sous l'effet d'une grâce divine ou d'une faveur divine ou d'une ambiance spéciale qui est celle de Dieu et que Dieu seul pourrait réellement apprécié. Mais même si vous vous acquittez de cette dette, donc, qu'est-ce qui vous dit que vous allez récupérer à travers cette compensation les mêmes faveurs divines qui sont celles liées au mois de Ramadan? C'est pour ça que beaucoup sont
d'avis. C'est une purification d'une faute donnée, tout simplement,
oui.
Mais sans les mérites.
Ça ne peut pas avoir les mêmes mérites, parce que ça n'a pas été fait pendant le mois de Ramadan. Attention, là encore, il y a une différence entre les hommes et les femmes, parce que certaines femmes, eu égard au cycle menstruel, n'ont pas le droit de jeûner pendant le mois de Ramadan. Donc, la clémence divine peut faire que ces femmes-là, quand elles récupèrent le jeûne, elles peuvent avoir ce fameux mérite qui est inhérent à leur constitution, à leur nature même de femme. Quand vous êtes dans la médisance, donc, ou dans le mensonge, c'est vrai que ça annule le jeûne. Mais est-ce que ça vous met dans l'obligation de le récupérer, comme quand vous mangez délibérément? Peut-être pas, on ne le sait pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont l'auteur de tous ces manquements, mais qui ne rejeûnent pas pour autant.
Est-ce que c'est une des causes qui a fait que Cheikh Al-Albani da'afa hadha al-hadith, Kamal Shakat?
Tad'if, il est dû à des vices que pourrait comporter la transmission ou quelque chose comme ça.
D'accord.
C'est pas pour des raisons de ce genre. Maintenant, quand on parle du fait de rompre le jeûne délibérément, chez les malékites et les hanafites, c'est une faute qui va vous mettre dans l'obligation de procéder à une expiation, kfara. Chez les hanbalites et les shafirites, non. Le kfara ne vaut que pour ceux qui ont eu une relation intime pendant la période d'abstinence, conformément au hadith. L'homme qui est venu voir le messager de Dieu, le hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim, il est rapporté aussi par l'imam Malik. Alors, chez le Bukhari et Muslim, l'homme dira, « Halaktu ya Rasulallah, j'ai péri au messager de Dieu. » Et qu'est-ce qui t'a fait périr? Il a dit, j'ai eu une relation intime avec mon épouse pendant la période d'abstinence. Dans le hadith de l'imam Malik dans le Muwatta, l'homme dit, j'ai rompu délibérément le jeûne, donc sans expliquer qu'il y a eu une relation intime, ce qui pourrait suggérer que l'homme en question a mangé ou bu délibérément. Mais nous savons que ce hadith est le même, donc il a juste été rapporté de manière différente. Donc les deux premiers imams, qui sont l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, chronologiquement parlant, sont d'avis que le fait d'avoir rompu le jeûne par une relation intime engage, ou bien le fait d'avoir mangé délibérément sans raison licite, c'est-à-dire sans avoir eu une maladie ou un empêchement licite ou sans qu'il y ait eu un déplacement qui serait à la hauteur d'un voyage, et par analogie, le même que celui qui devrait être engagé par une personne qui ait eu une relation intime. Qiyas qasu shahwat al-akl ala shahwat al-farj. Ça veut dire que le fait d'avoir succombé à cette tentation de vouloir manger est pour eux de même nature que le fait d'avoir succombé à cette envie d'avoir une relation intime. Les deux derniers qui sont l'imam Shafi'i, donc l'élève de l'imam Malik, et son propre élève, l'imam Ahmed, sont d'avis que non. Le kafara, l'expiation, ne vaut que pour celui qui a eu une relation intime. Ils vous diront qu'il est plus difficile pour un être humain de résister à une envie sexuelle que de résister à une envie de manger ou de boire. Et à partir de là, donc, il y a cette divergence qui existe jusqu'à aujourd'hui. Dans les écoles, les avis sont maintenus, donc il n'y a rien à changer. Mais dans le fait de manger et de rompre délibérément son jeûne, le fait d'agir, d'imposer une expiation par analogie, qiyasan, est tout à fait valable parce que si l'on ne faisait pas cela, que pourraient faire les gens du jeûne? Beaucoup de personnes se laisseraient aller au maximum. Ensuite, le kafara en elle-même, l'expiation. Le hadith du messager de Dieu est très clair. Il va proposer à la personne, dans le hadith de Muslim et d'Al-Bukhari, il va dire à la personne, affranchis un esclave. La personne n'avait pas d'esclave. Il passe à une deuxième mesure. Et là, quand il dit affranchir un esclave, et nous en avons déjà parlé lors de nos émissions, il y a beaucoup de gens qui vous disent, oui, tu vois, donc l'islam, il autorise l'esclavage. Non. Mm-hmm. Ça, c'est l'une des premières mesures religieuses qui ont été prises par Dieu subhanahu wa ta'ala pour justement éradiquer l'esclavage. Les expiations sont les plus appréciées quand il y a justement l'affranchissement d'un esclave. Maintenant, cet esclavage n'existe plus. Nous avons deux autres mesures qui restent. La première consiste à jeûner 60 jours consécutifs. La seconde, à nourrir 60 nécessiteux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé trois mesures. Certains savants sont d'avis qu'il faut respecter l'ordre établi par le messager de Dieu. Donc, si on n'a pas d'esclave, on doit essayer de jeûner 60 jours consécutifs. Si on ne le peut pas, on va nourrir 60 nécessiteux. Mais le problème est que dans ce fameux hadith, l'homme qui est venu poser le problème au messager de Dieu, quand il a dit « je n'ai pas d'esclave », le messager de Dieu lui dit « jeûne 60 jours consécutifs ». Il dit « je ne peux pas faire ça ». Et là, le messager de Dieu passe automatiquement à la troisième mesure. Les savants vous disent « écoutez, cet homme a eu assez de vigueur pour désirer ou vouloir une relation intime pendant la période d'abstinence ». S'il a cette vigueur, pourquoi le messager de Dieu ne lui a-t-il pas imposé d'essayer au moins de jeûner 60 jours consécutifs? Ça veut dire qu'en proposant la troisième mesure, la chose est au choix. Et le hadith de l'imam, rapporté par l'imam Malik, où il ne précise pas que l'homme est venu poser le problème, comme cela nous est précisé dans le rapport ou la narration de Bukhari et Muslim, à la fin, il lui dit « i'tiq raqaba », affranchis un esclave, « ou » Donc, c'est vraiment au choix.
Et s'il n'a pas les moyens pour ces 60 pauvres?
J'y arrive. L'imam Malik est d'avis que la meilleure des solutions ou la meilleure des mesures consiste à nourrir 60 nécessiteux. C'est la meilleure. Pourquoi? Parce que là, non seulement vous expiez votre faute, mais vous apportez un bien à autrui, à une soixantaine de personnes au moins. Maintenant, si la personne n'a pas ses moyens, comme c'est le cas dans le hadith tel qu'il est rapporté par le Bukhari et Muslim, quand il lui a dit « nourris 60 nécessiteux », l'homme a dit « je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de le faire ». Et là, on apporta au messager de Dieu, alayhi salam, une quantité, une unité de mesure qu'on appelle un « irq ». Ça veut dire que dans ce « irq », il y avait 60 muis, « sittina muddan ». Parce que la nourriture en elle-même, elle consiste en quoi? À nourrir un nécessiteux. La nourriture d'un nécessiteux, c'est quoi? Nous nous fions à la tradition prophétique. C'est une poignée généreuse de la denrée la plus utilisée dans une contrée. Minral et bikouti ahlil balat. Chez nous, c'est la semoule. Donc vous prenez hafna mleha, une bonne poignée généreuse de semoule. Ça, c'est ce que veut la tradition musulmane. Ensuite, on entend des gens qui vous disent « donnez l'équivalent de 200 à 250 dinars ». Cet avis est tout aussi bon, parce qu'on va au-delà de ce qui est demandé. Dans la mesure où il est dit dans l'expiation du parjure, « min awsati ma tut'imun ahlikum », donc un repas moyen. Ensuite, dans le verset inhérent au jeûne, il est dit « wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin », donc pour ceux qui ne peuvent pas jeûner le mois de Ramadan, pour surtout ceux qui ont des maladies chroniques, vous devez vous acquitter de la nourriture d'un nécessiteux. Là aussi, la langue arabe, l'usloub al-arabi, وَعَلَلَدِينَ يَطِقَنَا فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينُ وَبِيَنْ تَعَامُ مَسَاكِينُ قَالُوا النَّكِرَةُ تَنْصَرِفُ إِلَى الْكَثَرَةِ. Ça veut dire que si j'ai, on va dire, quatre nécessiteux à nourrir, je dois nourrir quatre personnes différentes. Abu Hanifa est d'avis que voilà, non, vous devez tout simplement vous acquitter de 4 portions de nourriture, même si ça ne peut concerner qu'une seule personne. Donc là, le messager de Dieu, alayhi salam, quand il demande à cette personne de nourrir 60 nécessiteux, la personne dira « je n'ai pas les moyens ». On apporta à ce moment-là au messager de Dieu l'équivalent justement de 60 portions de dattes. Il lui a dit « tiens, prends cela et offre-le aux pauvres ». Et là, l'homme, qu'est-ce qu'il va dire ? Il n'y a pas entre les deux rives ou les deux, on va dire, frontières de Médine plus pauvres que nous, au messager de Dieu. Donc prends ça et nourris avec cela ta petite famille, ou inshallah. Le messager de Dieu, mais alors, est entré dans un fou rire jusqu'à ce que ses dents de sagesse paraissent. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui ont les moyens, qui vous disent, wallah, rak ta'arf la rzaft ou a'titha bkfriya ou sha'alt fiha gar ou kdaw kifash ndir douk. Vous allez lui donner le ftoua de l'imam Malik. Il est là le problème. Je pense que c'est Aboul Walid al-Baji qui est l'un des grands interprètes de l'Muwatta, ou quelqu'un d'autre qui est revenu justement vers l'Andalousie. Et il y a un émir qui a rompu le jeûne, et tous les savants ont donné à l'émir le fatwa de l'imam Malik. Voilà, pas forcément par peur, parce qu'il y a un avis, il y a un avis religieux qui existe. Mais quand ce fameux jurisconsulte est arrivé, alors comme il jouissait d'une certaine autorité, on voulait aussi son avis. Il a dit non, je suis désolé pour lui. Il doit jeûner 60 jours consécutifs et rejeûner le jour qu'il a manqué, alors que ça n'est inscrit nulle part. Et là encore, cet avis est plus que valable, dans la mesure où les prescriptions religieuses n'ont pas la même portée et n'ont pas le même impact sur toutes les personnes. Là, le rang social joue un rôle déterminant.
La fatwa est personnelle, encore une fois.
Absolument. Généralement, une fatwa peut être très très complaisante, très facile pour tout le monde. Un chef d'État, par exemple, elle ne pourrait être que contraignante pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il doit donner l'exemple.
Il est responsable aussi.
C'est ça. Il y a un endroit qu'on peut juger d'endroit malfamé. Si un citoyen lambda se trouve là-bas, ça ne pose aucun problème. Si c'est un notable, ou un président, ou un imam, ou un mufti qui se trouve là-bas, ça pose problème.
L'impact est
donc
plus grand.
Donc, c'est pas la même chose. Donc, le fatwa, elle pourrait changer, justement. C'est ça le problème. Elle peut changer en fonction des gens. Vous savez, il y a des gens qui répudient leur femme en disant « Enti taliqun taliqun taliq ». Alors que le messager de Dieu, alayhi salam, était vivant. Et vous avez recours à un subterfuge alors que je suis encore vivant. Vous faites cela de mon vivant, devant moi. Il les a réprimandés. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, les gens persistaient à faire cela. Alors, il a publié un édit disant que quiconque le faisait se retrouvait face à un divorce définitif. Et les gens, même s'ils regrettaient, et venaient dire à un jurisconsulte, « Oui, mais j'ai dit ça, قلتها في مجلس واحد. » C'est bon, tu ne peux plus revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas le droit de faire preuve de désinvolture face au décret divin. Nous n'avons pas le droit. Donc, l'avis, en tout cas, des malékites est très très bon, dans la mesure où ils préfèrent la nourriture de 60 nécessiteux dans ce cas précis. Et cette nourriture, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la tradition veut une poignée généreuse de la nourriture la plus utilisée dans la contrée dans laquelle on vit. Chez nous, c'est la semoule. En Asie, c'est le riz. Dans d'autres endroits, c'est peut-être un autre produit. Pour ceux qui en ont les moyens, vous pouvez donner l'équivalent d'un repas moyen. À l'heure actuelle, c'est 200 à 250 dinars. Tout dépend là aussi des endroits. Il y a des endroits où c'est moins cher que dans d'autres. Et comme le dit si bien la bribe du verset coranique, « فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ », ça veut dire que quiconque veut faire plus, ça ne pourrait qu'être bénéfique pour lui. Si vous avez des gens qui veulent expier ou compenser avec 10 000 dinars pour chaque jour manqué pendant une maladie, qu'elle soit chronique ou, surtout, on parle ici des maladies chroniques, ils peuvent le faire. L'important est de ne pas descendre au-dessous de la poignée généreuse. Et là encore, il faut faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Si on a les moyens de donner plus, pourquoi ne pas donner plus? Et là, je reviens à un esprit qui est celui des Algériens actuellement, de beaucoup de musulmans d'ailleurs. Il ne faut pas devenir radin parce qu'on a affaire à Dieu. Subhanallah. Il y a des gens qui ont les moyens.
Qui font des calculs d'épicier.
C'est des calculs. Mais alors, subhanallah, c'est incroyable. Par exemple, la personne, elle vient surtout pour Zakat al-Fitr. Alors, on vous dit, cette année, c'est 100 dinars. La personne, elle vient avec un billet de 1000 dinars. Elle entre dans le maqsoura de l'imam. Voilà, donc il y a moi, ma femme et 4 enfants. Nous sommes 6. Et par moments, le type, ils sont 9 dans la famille, il vous donne le billet de 1000 dinars, il attend les 100 dinars. Et l'autre, l'imam, il lui dit, vous savez, on n'a plus de monnaie. D'ailleurs, je n'oublie le kftara, oui. Attendez, soyons sérieux. Vous devenez radin quand ça, avec Dieu, subhanallah.
Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « In basitu fi nafaqati fi shahr ramadan, fa inna nafaqata fihi kan nafaqa fi sabilillah. »
Je ne connais pas ce hadith. Mais bon, c'est un très beau hadith.
Dakarahu Sheikh al-Albani, Rida'if al-Jami' al-Saghir.
Mais attention, là nous sommes dans ce que nous appelons fada'il al-a'mal, les bonnes œuvres. Même si ce hadith est décrété da'if, yajouzu l'ihtijaju bil hadith al-da'if fi fada'il al-a'mal. Il tient lieu d'argumenter avec un hadith jugé faible dans les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas ici dans le licite et l'illicite. D'accord. Et nous savons que le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, surtout pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, qu'il donnait, il offrait, il faisait plus que ce qu'il ne faisait pendant les autres jours du
Pourquoi?
Mois de Ramadan et
Pourquoi
de la
nuit. Pourquoi durant ces 10
awakhir? Parce que c'est pendant ces 10 dernières nuits que se situe généralement la Laylat al-Qadr, la nuit de la prédestination ou bien la nuit de la valeur. On l'appelle... Le mot qadr ici peut prendre le sens de valeur puisqu'elle vaut, elle fait l'équivalent de 1000 mois d'assiduité au culte. Et elle peut être une nuit de la prédestination parce que, fiha yufraqu kullu amrin hakim, comme cela est rapporté dans Sourate Dukhan, il est dit dans l'exégèse de cette partie de ce verset que Dieu subhanahu wa ta'ala communique à ses anges proches tout ce qui va arriver pour les êtres humains durant l'année en cours. Un tel va mourir, un tel va réussir, il y aura telle naissance, il y aura tel problème, etc.
Il y a aussi un autre hadith sur lequel on devrait revenir. Alors, toujours dans le Da'if al-Jami' al-Saghir, il est dit que le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Man adraka ramadan wa alayhi min ramadanin shay'in lam yaqdihi lam yataqabbal minhu wa man sama tatawwa'an wa alayhi min ramadan shay'in lam yaqdihi fa innahu la yataqabbal minhu hatta yasumuhu. » Donc, si j'ai commis une
hadith,
faute, ramadan précédent.
Oui, précédent.
Oui.
Alors, si vous avez quoi que ce soit... donc une compensation à faire, vous étiez en voyage ou bien vous avez eu une maladie ponctuelle, vous avez raté un certain nombre de jours que vous n'avez pas compensé, que vous n'avez pas rejeûné, même si vous jeûnez donc le mois de Ramadan qui vient ensuite, ça n'est pas accepté.
Aïe.
Ou si même vous jeûnez des jours, un jeûne surérogatoire, il n'est pas accepté. Ce hadith est jugé faible et il ne peut pas être utilisé comme argument parce que là, nous sommes dans le licite et l'illicite. Nous ne sommes plus dans fada'il al-a'mal. Ne l'oubliez pas. Nous savons que la Sayyida Aisha radiallahu anha, c'est le cas pratiquement de toutes les femmes. Elles ont leur cycle, ce qui est tout à fait normal pour celles qui ne sont pas ménopausées pendant le mois de Ramadan. Ce cycle est itinérant à chaque femme, à la nature de chaque femme. Donc, celle qui a perdu un certain nombre de jours va devoir les rejeûner après Ramadan. Nous savons de Sayyida Aisha radiallahu anha Umm al-Mu'minin qu'elle récupérait ces jours-là pendant le mois de Sha'ban, précédant le Ramadan de l'année qui est l'année d'ensuite.
Donc, à la limite,
l'année
hein.
d'après, pardon. Oui, vraiment à la limite. Ceci a emmené un certain nombre de savants à dire que quiconque dépassait le mois de Ramadan devait non seulement jeûner les jours manqués, mais donner aussi une fidya, c'est-à-dire nourrir un nécessiteux pour chaque personne. Et là, si vous lisez un livre comme Bidayat al-Mujtahid, il y a un avis de l'imam Abu Hanifa qui est plus pertinent que celui des autres, qui dit « Ceci ne peut avoir lieu parce que nous n'avons la tchiri'a illa binas, nous ne pouvons légiférer qu'en l'absence d'un texte. » Et en l'absence justement d'un texte dans ce genre, qui peut imposer à une femme ou à une personne qui a fait preuve de laxisme une double peine? Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Donc la personne va devoir rejeûner ces jours-là, si vraiment elle ne le peut pas pour des raisons de santé, etc., et que ces raisons s'étendent, elle peut passer à une compensation, c'est-à-dire nourrir fidya, nourrir un nécessiteux pour chaque jour manqué. Et là encore, se pose une autre question. Vous allez trouver, ici même en Algérie, des jurisconsultes plus que confirmés et aboutis même. Hein, je parle de, par exemple, de Cheikh Mohamed Ouidir Mishnah, Rabbi Hafdo, ou bien Cheikh Moussa Ismail, tous ceux que vous pouvez voir dans les différentes chaînes algériennes. Une fois, d'ailleurs, j'en ai discuté avec Cheikh Mishnah. Une femme qui a eu, par exemple, qui va vouloir jeûner l'ayam ta Shawwal, les 6 jours de Shawwal, et qui a aussi un jeûne manqué. Alors, Siyam Shawwal, c'est un jeûne surérogatoire. Et les jours manqués pour des raisons de cycle, parce que la femme a eu son cycle, sont des jours obligatoires qu'il faut rejeûner. La majorité des savants sont d'avis que, voilà, on va profiter de Shawwal, parce que Shawwal lui aussi se trouve sous le coup, sous l'effet d'une grâce divine qui est spéciale, inhérente, spécifique à ce mois. On va profiter de ce mois pour jeûner les 6 jours de Shawwal, regroupés ou séparés. Et puis le jeûne obligatoire peut être repoussé jusqu'à Sha'ban, comme le faisait Sayyida Aisha radiallahu anha, parce que on imagine mal une grande dame comme Umm al-Mu'minin, mère des croyants, Sayyida Aisha, qui ne jeûnerait pas d'un jeûne surérogatoire tout au long de l'année. Donc elle a dû jeûner les jours de Shawwal, les journées peut-être les de nuit blanche, la Yam al-Bayt de pleine lune, des journées vertueuses comme Waqft Arafah, etc., pour récupérer le jeûne qui faisait office de dette juste avant le mois de Ramadan. Là, certains savants, il y a des écrits qui parlent de d'ijtima' an-niyya fil 'amal al-wahid, donc plusieurs intentions dans un même acte. Ça peut concerner par exemple l'wudu, ça peut concerner un certain nombre de choses. Et là, j'ai entendu une fois Cheikh Mishnan dire non, elle peut faire l'intention, la femme peut faire l'intention tenoui. Siyam, l'ayam li rahat, donc les jours manqués, et ayam shawwal en même temps. C'est un avis, hein, c'est un avis qui existe. Donc, vous savez, le futya, matma'anna ilayhi qalbuk. Vous trouvez que c'est un avis qui est justifié, vous le suivez, il n'y a pas de problème. Et même celui qui est l'auteur de cet avis ne supporte aucun péché parce qu'il a dit cela en étant conscient et convaincu qu'il est dans le vrai. J'ai appelé Cheikh Mishnan, je me souviens, j'ai dit, voilà, je smat que troul hada. Honnêtement, ça ne peut pas, mon cerveau ne peut pas accepter cela. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, si telle chose venait à être vérifiée et valable, ceci voudrait dire que je peux faire salat al-dohr et l'asr avec une seule intention. Rba'arkat, binzouj b'sir. Il m'a dit, non, c'est pas la même chose. Et c'est vrai, quand vous lisez...
Ça ne vaut pas pour chaque acte, Kamal Chakat.
On vous dit que ça ne le vaut pas pour chaque acte. Mais moi, je suis d'avis que nous avons là deux jeûnes très différents. L'un est surérogatoire, nafl. L'autre est obligatoire, fard. Ce sont deux jeûnes qui s'inscrivent dans deux dimensions très, très différentes l'une de l'autre. Et à ce moment-là, moi, généralement, je dis aux femmes, non, jeûnez les jours de Shawwal avant que Shawwal ne se termine. Et puis récupérer le jeûne obligatoire tout au long de l'année qui dit Siyam Sahel. Et déjà le fait de savoir que Sayyida Aisha l'a fait, ça nous donne comme enseignement que dès lors où l'on est dans l'intention de récupérer ce jeûne, le problème ne se pose plus avec Dieu. C'est-à-dire que si je venais à mourir avant même d'avoir récupéré ce jeûne, peut-être que je ne supporterai aucun péché. C'est pour cela qu'il est très très important de prendre en ligne de compte niya, l'intention, voilà, dans chaque acte religieux. Souvenez-vous de cette fatwa de l'imam Abu Hanifa. Même dans le juridique, ça joue un rôle. Le qadi Abu Yusuf, qui était son disciple, est tombé malade. Et une fois, les gens ont vu Abu Hanifa sortir de chez lui alors que sa maladie était au paroxysme. Il pleurait, mais il pleurait à chaudes larmes en disant « Qui vais-je laisser après moi si ce n'est toi, Abu Yusuf ?» Et des gens sont rentrés ensuite voir Abu Yusuf quand il s'était rétabli quelque peu, lui disant « Voilà, donc tu te sens bien ?» Oui, il dit « Donc dans quelques jours, je réintègre le cours de notre cheikh. » Ils lui disent « Mais non, tu n'en as pas besoin. Voici ce qu'a dit Abu Hanifa à ton égard. » « Ah bon, je suis donc devenu un grand monsieur. » Eh bien, Abu Yusuf rentre dans la mosquée, il se retire dans un coin, et il y a des gens qui tournent autour de lui, il commence à enseigner. Abu Hanifa le voit de loin, il envoie, je crois qu'il a envoyé Zufar ibn al-Hudayl ou quelqu'un, en tout cas un grand disciple. Il lui dit, qu'est-ce qu'il fait Abu Yusuf? On lui dit, maintenant il se sent apte à enseigner, comme toi. Alors allez là-bas chez lui, posez-lui la question suivante. Dites-lui, un homme est allé chez un tailleur, pour faire un ourlet, et quelques jours après il revient chez le tailleur et le tailleur nie avoir reçu quoi que ce soit de sa part. L'homme va voir la police, il donne la description du pantalon, sirwal, parce qu'il est question de sirwal ici. Mm. Et les gens portaient des pantalons.
Exactement.
À l'époque.
Exactement, même le prophète allait
s'en. Oui, kana yalbisus sarawil, contrairement à ce que nous disent certains érudits de pacotille. Alors, la police investit le local et trouve le pantalon. Et là, la question que posait Abu Hanifa à l'Imam al-Qadi Abu Yusuf, qui va devenir l'une des icônes de l'école hanafite, le client doit-il payer la prestation, l'ourlet ou pas? L'autre regarde, il dit non, parce que l'autre, il a essayé de l'entourlouper,
de l'escroquer.
Et là, le disciple lui dit non, Abu Hanifa dit que non. Il se tait un moment, il dit oui, oui, il doit payer. Et l'autre lui dit non. Là encore, Abu Hanifa a dit non. Ah, là, il y a un problème. Le Qadi Abu Yusuf, ou le futur Qadi Abu Yusuf, disciple à cette époque-là,
Ibn Ibrahim al-Ansari,
il dit, là, il y a un problème. Je dois aller consulter le Sheikh. Là, ça veut dire que je ne suis pas tout à fait abouti. Il retourne vers Abu Hanifa et lui dit, là, va falloir que tu nous expliques, Sheikh. Il lui dit, écoutez, on doit mesurer la taille du pantalon. S'il est à la taille du client, ça veut dire qu'au moment où l'ourlet a été fait, le tailleur n'avait pas l'intention d'escroquer son client. Et à partir de là, le client doit payer la prestation. Et le tailleur, bah, il va recevoir ce salaire, mais il devra payer devant la loi pour un vol, pour une tentative d'escroquerie. Mais si le pantalon a été fait à la taille même du tailleur, ça veut dire qu'au tout début, il avait l'intention de l'escroquer. À ce moment-là, le client, on doit lui restituer son pantalon, il ne devrait rien payer et à la charge du tailleur de payer les dommages et intérêts. C'est pour ça que quand on parle de l'intention, une femme n'a pas jeûné, on va dire, 5 jours pendant le mois de Ramadan. Il y a le mois de Chouel qui se pointe, il y a beaucoup de mérite, cette femme veut jeûner. Eh bien, elle va jeûner les 5 jours du mois de Chouel. C'est la vie pour laquelle je pense.
Les 6 jours, vous voulez dire?
Les 6 jours du Chouel. Et puis, après cela, elle peut penser à jeûner les 5 jours manquants de son mois de Ramadan. Et tant qu'il y a intention de les jeûner, nous espérons avec la clémence de Dieu que cela qu'aucun grief ne lui sera fait, ou qu'elle ne supportera aucun péché. D'où justement cette différence dans cette fatwa. Vous allez trouver les deux fatwas. Certains vous diront, vous pouvez grouper les deux œuvres, deux intentions dans la même œuvre. D'autres vous diront que non, tout simplement.
Mais voilà, c'est un avis tranché sur la précédence de l'un ou l'autre, donc oui. L'obligatoire ou le surérogatoire autour de nous chaque année à la radio ou à la télévision, dans les fameuses fatawa al-hawa, on entend le mufti ou l'imam dire non, il faut commencer par l'obligatoire.
Pas nécessairement.
Alors que c'est chouel, il ne faut pas le rater.
Pas nécessairement. Beaucoup. Et ceux qui disent que ceci n'est pas une condition sine qua non, ils ont justement le hadith de Aïcha qui plaide pour leur avis. Elle différait. Nous avons 2/3 de notre religion qui nous vient d'elle en termes de connaissances. Donc la récupération du jeûne manqué du Ramadan précédent, elle le différait jusqu'au mois de Sha'ban. Foutir qana'at, n'oublions pas ça. Déjà, quand vous allez consulter un jurisconsulte, le jurisconsulte, le mufti, n'est pas un qadi. Il est en droit de ne pas vous répondre. Le qadi, par exemple, quand vous allez le consulter, il est dans le devoir de trancher dans votre affaire, dans le litige qui se pose. Le futia, غير ملزمة والقضاء ملزم. Donc une ordonnance judiciaire, elle est contraignante, vous êtes dans l'obligation de vous y conformer. Le futia, vous allez demander à quelqu'un, vous posez une question à une personne douée de connaissances, elle vous donne une réponse, cette réponse ne vous plaît pas, vous pouvez voir quelqu'un d'autre. Parce que cette fatwa que vous avez reçue du premier jurisconsulte ne vous engage en rien. Ce n'est pas parce que vous êtes allé poser la question à X que vous devez la mettre en application.
Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été des nôtres. Sahasiyakum, Rabbi Yitqabbal. Et à demain, Inch'Allah. Au revoir.
Inch'Allah.